pleine gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Pas de commencer à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes fêtent à saccager les pions. J'arrive les lardus avec des mitraillettes. Et y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Gaffe les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. Pour l'armée, si vous arrêtez pas, tu lâches le radis, je préfère encore crever. On a des allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner.
Bonsoir tout le monde, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, comme tous les vendredis soirs sur l'Envolée. Vous pouvez nous appeler au 01 40 05 06 10 ou nous écrire au 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Et ce soir, au bocal, Serge.
Salut tout le monde.
Greg.
Salut.
Alex.
Salut.
Arthur.
Salut.
Et Sylvia.
Coucou. Alors, on va vous faire le sommaire de l'émission. Ce soir, nous avons deux lettres. Une lettre de Kémy, incarcéré à Saint-Maur, et une lettre des prisonniers italiens. On va vous passer un petit peu de musique avant l'appel d'un monsieur de Perpignan qui...
L'oncle de Taoufik.
Voilà. Qui a perdu la vie dans la prison de Perpignan. On va vous remettre un petit peu de musique. On va vous parler de cette tôle Seyss qui est pour nous et pour les prisonniers un endroit, moi je dirais qu'on est carrément dans la ligne verte hein, dans ce film. C'est un film, Seyss. Bon bref. Et on va parler en bref de l'infâme et des petites brèves s'il y en a, je suis pas à la page, je sais pas, j'ai été bizuté, je vous le dis tout de suite, j'ai pas l'habitude de faire la ligne de conduite, c'est le bordel et je m'en fous. Non, c'est pas vrai, je m'en fous pas. On va faire la lettre.
On parlera sûrement un peu de l'infâme à un moment et peut-être à la fin. Donc voilà.
Il fallait qu'il me reprenne bien évidemment, lui là.
Bah oui, c'est tout le principe du bizoutage.
Tant qu'à faire. Donc pour introduire la lettre de Kémy, donc c'est une lettre qui a été écrite à peu près il y a 3 semaines, donc de la maison centrale de Saint-Maur, donc cette prison tristement célèbre, donc c'est une prison pour les longues peines et bien connue pour ses traitements inhumains. Donc il a appelé sa lettre publique. à tous les détenus de France et les personnes non incarcérées, j'écris cette lettre pour dénoncer mes conditions de détention et pour trouver un écho à ma parole. Je suis à la centrale de Saint-Maur depuis 3 mois, au quartier d'isolement depuis mon arrivée dans l'établissement pour soi-disant être observé. Je viens d'être prolongé pour 3 mois de plus, car mon arrivée serait trop récente, et donc ils ne peuvent pas dire si je suis apte à une détention ordinaire. Au début, j'ai été classé auxiliaire, peintre, mais au bout de 10 jours, ils m'ont déclassé, parce qu'ils auraient trouvé un câble dénudé dans ma cellule, entre guillemets, s'apparentant à un port USB. Puis le jour même, j'ai été mis en gestion équipée, menotté, pour 3 raisons différentes. La première serait que j'aurais fait venir une équipe de voyous un soir devant la prison et que le chef de détention nous aurait entendu tenir des propos mettant en danger l'établissement et le personnel pénitentiaire. La deuxième serait qu'ils ont des éléments prouvant la mise en place d'une prise d'otage. Et la troisième serait parce qu'un de mes frères, avec qui je n'ai pas de contact, voulait se suicider. Mes conditions de détention sont horribles. Je n'ai pas le droit aux activités, pas de travail, alors qu'un atelier a été ouvert au sein du quartier d'isolement. Je vois un médecin tous les 36 du mois, mais le plus hallucinant est ma cellule. Il y a des grilles partout, même à la porte, comme au quartier disciplinaire. On me donne le repas à travers un passe-plat. Je fais tous mes entretiens dans ma cellule, derrière la grille, et mon interlocuteur dans la coursive, même le psy. Aucun secret médical. Les toilettes sont à côté de la porte, sans cloison de séparation. L'eau du robinet est marron. J'ai le dos en miettes, car les chaises sont interdites au QI. On a juste le droit à un tabouret. Le repas nous arrive froid, et les douches sentent la fosse septique. Je demande des entretiens avec la direction, mais personne à l'horizon. Je les vois que quand elle vient m'inventer je ne sais quel délire. Mes courriers n'arrivent pas à destination et ne me parviennent pas. D'ailleurs, je ne serais pas étonné que cette lettre atterrisse dans une poubelle de la prison. J'ai téléphoné à l'OIP, mais la voix d'un détenu ne vaut rien. Il faut croire que la direction de Saint-Maur est intouchable, tellement que les autres détenus n'osent pas s'opposer à eux de peur de représailles. Sur 15 détenus du QI, nous ne sommes que 3 à essayer de faire valoir nos droits. Mais faut bien l'avouer, rien ne bouge. Je vous l'avoue, sans l'envoler et une personne en particulier qui se reconnaîtra, je ne sais pas si je serai encore là pour écrire cette lettre. Je suis de nature combative, mais Saint-Maur commence à avoir raison de moi. Je place tous mes derniers espoirs dans cette lettre en espérant que ça fera réagir qui de droit. Je finis cette lettre en disant « Courage à tous les détenus de France. Et aux personnes à l'extérieur, je voudrais leur dire que nous sommes des êtres humains et que nous aussi nous avons des droits. Un animal de compagnie a droit à l'eau potable, une niche ou cage confortable, alors pourquoi pas moi ? J'espère que quelqu'un entendra mon appel au secours et m'aidera à faire bouger les mentalités et à faire cesser la torture psychologique et physique au sein des établissements pénitentiaires français. Bien à vous, Kémy, un détenu aux abois. »
Et pour rebondir sur la lettre de Kémy, faut savoir qu'à Saint-Maur, c'est pas la première fois qu'on entend que les mecs vivent des conditions horribles. Je pense bien évidemment à Fabrice Borromée, qui a subi une grenade assourdissante dans les douches. Je pense à un coup de fil que j'ai eu il y a 10 minutes où ils font sortir un mec en promenade pieds nus à qui ils donnent pas de couverture dans sa cellule par ce froid actuel. Et c'est des choses que les prisonniers peuvent pas prouver. Ça pousse les mecs à bout à l'intérieur. Et donc, faut que ça cesse et il faut que Saint-Maur comprenne que dehors on est au courant de ce qui se passe et qu'on laissera pas faire sans rien dire. Voilà, courage à vous les gars et les meufs qui se battent.
Et juste pour préciser, la gestion menottée pour les gens qui sont à l'extérieur et qui savent pas c'est quoi en fait, c'est que dans ta cellule t'as une petite trappe dans laquelle chaque fois que tu veux sortir de ta cellule, tu dois passer tes mains et on te fout des menottes et donc t'es toujours menotté dans tous tes déplacements à l'intérieur de la tôle. Donc ça va pour aller au téléphone, pour aller à la douche tout le temps. Voilà, donc t'es à part dans ta cellule et en cours de promenade, t'as toujours des menottes. Voilà, enfin, c'était juste pour le.
Pour ajouter, parce que moi, si j'ai bugué, ça aurait été mieux de le faire avant. Juste pour préciser que Kemi, donc du coup, il est en taule depuis 2012. Donc il a pris une longue peine. Il avait pris 4 ans ferme. Et puis après, il a eu des peines à l'intérieur, notamment suite à des prises d'otages pour rapprochement. Il a fait des prises d'otages pour avoir un rapprochement familial, vu que ça lui était refusé. D'où cette peine. Aujourd'hui, il a une conditionnelle possible à partir de 2022 et une fin de peine pour 2032. Voilà. Et donc, il était à Réau avant d'être transféré à la centrale de Saint-Maur. Et aujourd'hui, voilà, il a même été lâché par sa famille. Donc, il se retrouve
il avait pas demandé à cet endroit-là. Enfin, il avait fait, il avait demandé d'être transféré ailleurs. Et ils l'ont foutu à Saint-Maur, bah, comme d'hab. Enfin, c'était la même chose avec l'infâme et autres. Quoi.
Il faut bien dire qu'en fait, c'est pas une prise d'otage qu'il a fait, c'est une prise de parole. Normalement le rapprochement familial, on le dit, on va le redire encore une fois, c'est un droit aux prisonniers, et que les mecs sont tellement à bout qu'ils se voient par exemple cette prise de parole pour pouvoir avoir un transfert disciplinaire. Voilà. Et donc aujourd'hui il est libérable en 32
fin de peine.
Mais
la condi en 22.
Ouais. Et pour rappel sur le rapprochement familial, c'est un truc qui est vraiment ouf pour les personnes qui ont leur famille dans les, enfin c'est le cas particulièrement pour Fabrice Borromée, mais pour les personnes qui ont leur famille qui sont en territoire d'outre-mer et qui sont envoyées en France, voilà, c'est des gens qui ne peuvent pas voir leur famille ou sinon payer, voilà, et c'est des droits. Actuellement, il y a les Corses qui se battent pour qu'il y ait un rapprochement familial. Ils ont été accueillis par Dupond-Moretti, comme par hasard, il a eu d'anciens clients corses. En tout cas, c'est un truc qu'il faut pour toutes les familles, pour tous, que ça soit à l'intérieur de la France, à l'intérieur de la France métropole, pardon, et puis les territoires colonisés. Voilà.
On va lire une lettre des prisonniers italiens.
Peut-être qu'on rappelle un peu le contexte avant.
J'aurais bien aimé, mais...
Le témoignage de la Kisson. Sorti, donc c'était au moment du confinement, en mars là, de cette année, où au moment où ils ont annoncé le confinement en Italie, ça, en fait, il y a eu plein de révoltes qui ont éclaté dans des prisons, on en avait pas mal parlé ici, et en fait ça avait pété vraiment de façon vénère, et la répression avait été hyper dure et en fait hyper meurtrière. Une des révoltes qui a été la plus marquante et tout, c'est celle de la prison de Modène, qui a éclaté le 8 mars. Et en fait, donc, il y a eu des tentatives d'évasion collective, tout ça. Ils ont dû vider complètement la prison tellement elle a été rendue hors d'usage. Et en tout, ce jour-là, en tout, il y a 8 prisonniers qui sont morts à Modène, donc 4 ou 9, je sais plus, enfin 4 qui seraient morts pendant le transfert après. Donc en fait, donc tous les prisonniers qui restaient ont été transférés. Donc on imagine bien que les prisonniers qui sont morts pendant le transfert sont morts entre les mains des matons ou des keufs. Et en tout, pendant les révoltes en Italie, c'est 14 prisonniers qui sont morts et qui n'ont jamais été reconnus comme tels par l'AP, qui a juste, enfin l'AP, l'administration pénitentiaire italienne, qui a juste déclaré que c'était des prisonniers qui étaient morts d'overdose, enfin qui a trouvé, voilà, les raisons habituelles qu'on sort pour des personnes qui meurent en prison, et qui n'a pas reconnu. Et donc voilà, il y a des témoignages qui sont sortis et qu'on va vous lire, qui racontent en fait comment ces personnes sont mortes et voilà, qui demandent vengeance pour l'administration pénitentiaire italienne. Alors, le premier témoignage. Je suis allé en prison parce que la police est venue contrôler et m'a trouvé sans papier. Ils m'ont envoyé en prison. Depuis que j'étais en prison, les problèmes ont commencé. Une fois, il y a eu une bagarre. Je n'avais rien à voir avec ça. Ensuite, la police est arrivée et ils sont entrés, nous ont battus et nous ont cassé les os. Puis ils nous ont mis en cellule d'isolement pendant 3 jours sans nous emmener à l'hôpital. Finalement, un garçon a été emmené à l'hôpital et s'est évanoui à cause des douleurs. Quand il l'a vu, le médecin l'a laissé entrer de toute urgence. Le médecin a dit à la police qu'il devait rester à l'hôpital au moins 3-4 jours, mais la police ne voulait pas. Le médecin avait demandé qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur de la prison pour l'aider à bouger pendant un mois, mais la police n'a rien fait de tout ce que le médecin avait demandé et lui a donné un certificat. Il a fait un rapport à la police, à l'hôpital, et a pris le dossier avec lui. À la fin ce soir-là, ils l'ont pris et l'ont immédiatement emmené à la prison de Modène, où j'avais également été transféré, dans une cellule où se trouvaient également mes amis de ma ville. J'y suis resté jusqu'à ce que le coronavirus arrive. Et lorsque le corona est arrivé, il y avait un homme malade du virus et ils ne voulaient pas le laisser sortir. Et ils nous ont interdit de voir les membres de nos familles. Après cela, une révolution s'est produite et ils ont incendié la prison. Et les forces spéciales sont entrées et ont commencé à tirer. 12 personnes sont mortes, dont 2 de mes amis. Ils sont morts sous mes yeux. Je suis toujours sous le choc. Je m'étais échappé sur le toit de la prison pour qu'ils ne me tirent pas dessus après,
Ils nous ont tous pris et emmenés et mis dans une pièce. Ils nous ont enlevé tous nos vêtements et ils ont commencé à nous battre, nous gifler et nous donner des coups de pied. Ensuite, ils nous ont rendu nos vêtements et ils nous ont mis en ligne. Et ils nous ont encore battus avec la matraque. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'ils allaient nous emmener dans une autre prison. Tels étaient les coups que nous avons reçus, qu'ils m'ont envoyé dans une autre prison sans chaussures. Puis, quand nous sommes arrivés à la prison, ils nous ont battus à nouveau. Au final, j'ai purgé ma peine. Je suis très choqué pour mes amis. Je n'ai pas pu porter plainte contre les carabiniers parce qu'ils sont trop forts. Je n'ai ni argent ni documents. Je suis toujours très choqué. Je n'arrive plus à dormir ni à bien manger. Après tout, je me sens encore très mal, mais malgré tout, j'aime l'Italie grâce à vous qui m'avez fait parler.
Ouais, et on va vous dire un deuxième témoignage, peut-être juste pour revenir sur. Donc là, la période dont on parle, c'est des révoltes qui ont lieu donc, dans plein de prisons en Italie, et c'est ce qui va faire aussi un peu la réaction de l'administration pénitentiaire française pendant le confinement, parce que ça arrive genre 2 ou 3 semaines avant le confinement là-bas, donc la fin des parloirs, les privations de tout, et donc les révoltes qui vont avec. Et du coup, c'est un peu ce qu'on racontait dans le journal, mais c'est que. Le moment où il se passe tout ça, où il y a cette répression-là face à ces révoltes-là, c'est le moment où l'administration pénitentiaire italienne elle essaie d'envoyer un message très très fort quoi, à tous les prisonniers. Quoi. Et donc là, on va vous lire une deuxième lettre qui a été envoyée à la mi-octobre à Olga, qui est un journal anticarcéral de l'aide de prisonniers et prisonnières. Nous sommes maintenant au milieu de la soi-disant deuxième vague de la pandémie. Dans toute l'Italie, le nombre d'infections et de décès augmente. Et ainsi que pour les soins de santé et les écoles, le gouvernement n'a rien mis en œuvre dans les prisons pour empêcher la propagation du virus. Les données sont catastrophiques. Plus de 2 000 détenus et gardiens sont infectés. Avec le surpeuplement des prisons, il est clair que nous sommes confrontés à une bombe prête à éclater. De plus, aujourd'hui comme au printemps dernier, des mesures sanitaires adéquates ne sont même pas prises à l'intérieur des tôles. Les masques et autres équipements de protection individuelle manquent, les tampons sont effectués avec difficulté, les soins médicaux déjà difficiles d'accès sont maintenant encore plus remis en question. Outre les différentes administrations pénitentiaires, les autorités sanitaires locales chargées de la santé en prison sont également responsables de ces carences. Les détenus, épuisés par la répression de ce printemps, cependant, n'abandonnent pas les actions de protestation. Battage, refus de revenir de promenade, refus du chariot, grève de la faim sont les outils avec lesquels, ils essayent de se faire entendre, car ils savent que pour l'État et les administrations publiques et pénitentiaires, ils sont chers à canon. Les dispositions prises par la DAP, Département d'administration pénitentiaire, et le ministre de la Justice, sont une photocopie de celles de mars. Blocage des entretiens pour les détenus dans les zones rouges et ouverture ridicule pour réduire la surpopulation. Alors que les gardiens, principaux vecteurs de l'infection, entrent et sortent des pénitenciers et que les magistrats de surveillance continuent de refuser la liberté aux nombreux candidats, démontrant qu'ils ne veulent pas surmonter le problème sécuritaire malgré le risque de carnage dans les prisons. Il nous semble plus que jamais important de briser le mur du silence et de l'isolement qui entoure les prisons, de donner la parole aux protestations de ceux qui sont enfermés et de soutenir leur lutte pour qu'il soit clair qu'aujourd'hui comme en mars, la seule sécurité est la liberté.
Bah en tout cas, on sait qu'en Italie, ils nous entendent pas, mais plein de force à eux. Et on se voit bien qu'en fait, que c'est des gestions qui sont quand même vraiment très, très similaires, comme tu le disais au début, à ce qui se passe aujourd'hui en France. Est-ce qu'on veut rajouter un petit truc? On passe un petit coup de zik.
C'est le J, c'est le S, un 3
à la fac.
J'suis qu'avec des têtes cassées dans la laque. J'les baisse,
motherfucker.
J'les baisse,
motherfucker.
C'est le J, c'est le S, un 3
à la fac.
J'suis qu'avec des têtes cassées dans la laque. J'les baisse,
motherfucker.
J'les baisse,
motherfucker.
Culé ta mère. J'suis en fond de 7 sur la A7, j'suis vers l'assiette, du fric à faire. Hey, guerre égale, remonte à taille. J'clope du métal, j'vise du multistrada. Et on vit pas de garde du corps, hein. 3 sacoches, plus vite c'est plus tard. Votre gauche appelle de phare. Matrix, et j'me casse à Benidorm. Malaga, pareil que t'es un bandito. Et va là-bas, cortège de moto. Tres un cho. Fais le signe, j'ai le cri, motherfucker. Mon poteau, ouais, elle t'a meurs, ça fait mal au dos. Hey, les sous, ça vous monte à la tête. Hey, et tu vends ta daronne pour un plot. Petit couteau.
C'est le J, c'est le S, un 3
à la fac.
J'suis qu'avec des têtes cassées
dans la laque.
J'les baisse,
Marafak.
C'est le J, c'est le S, un 3
Marafak.
J'suis qu'avec des têtes cassées
dans la laque.
J'les baisse,
Marafak.
J'les baisse,
Marafak.
T'as des trucs à dire, on a des trucs à faire, frère. Dans le coin, ça tire, grr, grr, grr. Histoire de terre. Ça aurait pu finir comme Lewandowski. Mais les gens, ils veulent des sous, maintenant Lewandowski. Sous whisky, qui c'est qui fait le fou, ce soir Jaroski. Dans le secteur, y'a des bandits, y'a des petits qui ont grandi. Y'a des voyous, y'a des bandits, y'a des grosses peines, des repentis. Et des fils d'eux que j'avais senti. Sur le vieux port, on est samedi. Y'a le Covid, y'a le confit, y'a les copines, y'a les cousines, y'a les voisines. La limousine m'envoie un Uzi, je les bousille. Scousi, pas de scousi. Trop de buzz, j'peux pas sortir l'arme de Roussi. J'te mets le pied au menton comme un poussif. C'est nocif dans la zone sans le Roussi. Quand j'arrive dans la zone, c'est atroce. Sur les CZ, les bolides, les crosses. Et les frères, ils attendent des grâces. Plus elle est bonne, plus s'embouille, elle est grosse. C'est le J, c'est le S, un 3
à la fac.
J'suis qu'avec des têtes cassées
dans la laque.
J'les baisse,
Marafak.
J'les baisse,
Marafak.
C'est le J, c'est le S, un 3
à la fac.
J'suis qu'avec des têtes cassées
dans la laque.
J'les baisse,
Marafak.
J'les baisse,
Marafak.
C'est le J, c'est le S, un 3
à la fac.
J'suis qu'avec des têtes cassées
dans la laque.
J'les baisse,
Marafak.
J'les baisse,
Marafak.
C'est le J, c'est le S, un 3
Marafak.
J'suis qu'avec des têtes cassées
dans la laque.
J'les baisse,
Marafak.
J'les baisse,
Marafak.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM sur l'Envolée. Vous pouvez nous écrire au 1 rue de la Solidarité 75 019, nous appeler au 01 40 05 06 10 ou au 07 52 40 22 48. On est aussi sur internet avec l'envolée.net, on est sur Facebook et Instagram.
Voilà, et donc là on vient d'entendre Jules et SCH, le morceau Motherfuck qui vient de sortir. Ils ont relevé un peu le niveau, j'espère que vous avez kiffé les frères et sœurs parce que ça envoie quand même un peu de patate.
Grave. Et on passe un big up à celle qui se reconnaîtra et qui nous aura... Ouais, parce que Jules, il nous écoute.
Il y a plein de dédicaces.
Avec Soso Madness, il nous écoute. Bon, on va passer à un truc qui est un peu plus, qui est beaucoup plus sérieux et tout ça, qu'on a déjà un peu parlé ici. On est avec l'oncle de Taoufik au téléphone. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc Taoufik est décédé. Est-ce que vous voulez nous raconter l'histoire ?
Oui, écoutez, je vous remercie d'avoir pris mon appel. Écoutez, Taoufik, donc mon neveu, malheureusement qui était incarcéré au centre pénitentiaire de Perpignan, qui était père de 6 enfants. Alors, on ne sait pas exactement quand c'est qu'il a été hospitalisé donc à l'hôpital de Perpignan. On ne sait toujours pas à quel jour il a été admis. Par contre, il est décédé le 18 octobre. Donc, soi-disant que quand il a été admis à l'hôpital de Perpignan, il aurait été mis sous assistance respiratoire artificielle. Et je ne sais pas qui a donné l'autorisation de le débrancher et de quel droit cette personne s'est permis de donner l'autorisation de le débrancher sans que personne soit au courant, même pas ses parents. Donc il est décédé le 18.
Excusez-moi, je vous coupe parce qu'il est super important de dire qu'à ce moment-là, l'administration pénitentiaire n'a pas pris le temps et le soin de vous contacter, vous, proche de Taoufik. Ça veut dire qu'au moment où il a été hospitalisé, ils auraient dû vous appeler déjà, ce qui n'a pas été fait.
Tout à fait, madame.
Voilà.
Tout à fait.
Et eux...
Et eux, ils disent que ça fait depuis le 14 octobre, donc 4 jours avant, que Taoufik était hospitalisé. Donc ils avaient 4 jours quand même, c'est très long dans ce genre de situation, pour pouvoir vous avertir.
Bah, tout à fait. Ah, bah, écoutez, disons que le service de l'état civil de la mairie de Perpignan a contacté son ex-épouse le 23 octobre. Mais son papa et sa maman, disons que sa famille, eux, ils sont avertis que le 9 décembre. Le 9 novembre.
Ouais. Bah, en fait,
alors, vous vous rendez compte?
Mais parce qu'il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe avant ça, parce que là, à ce moment-là, le 18 octobre, ils se permettent de débrancher sans rien avertir de quoi que ce soit.
Tout à fait.
Et
vous ne savez toujours pas qui a donné cette autorisation de...
Bah, écoutez, personne ne sait. Nous, on ne sait toujours rien, même à l'heure actuelle, personne ne sait absolument rien. On ne sait pas quand c'est qu'il a été admis à l'hôpital de Perpignan. On ne sait pas qui a donné l'autorisation. Si, bien sûr, c'est à prendre au conditionnel, parce qu'on on parle vraiment dans le flou. Hein. Soi-disant que quand il a été admis à l'hôpital de Perpignan, il a été tout de suite mis sous assistance respiratoire artificielle. Et donc, on ne sait pas qui a donné l'autorisation de le débrancher, sans que sa famille, donc son papa et sa maman, ses frères et sœurs, soient avisés. Donc, il y a quelque chose qui sonne pas bien, quoi. Hein. C'est vraiment louche. Mais son père et sa mère et ses frères et sœurs, eux, ils sont avertis que le 9 novembre. Ouais. Donc, vous vous rendez compte, c'est un petit peu louche, quoi.
Ils sont avertis assez bizarrement, d'ailleurs, puisque...
Mais même avant qu'ils soient avertis, en fait, il y a deux prisonniers qui sortent en permission de sortie et qui croisent l'un des frères de Taoufik. Le 31 octobre, où ils leur disent il y a un truc qui est bizarre, voilà. Quand l'un des frères en a discuté avec moi, il me dit il comprend pas très très bien qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas, il y avait un truc grave qui était arrivé.
Et oui, tout ça... à fait, c'est ce que mon neveu m'a dit. Il m'a dit tonton, voilà, il y a un co-détenu qui était avec Taoufik, qui serait sorti en permission chez lui, et qu'il aurait vu quelque chose de bizarre qui se serait passé, et peut-être qu'il y aurait un mort. Donc voilà ce que mon neveu m'a annoncé.
Et à ce moment-là, vous ne pensez même pas que c'est Taoufik qui est mort, en fait.
Disons que mon neveu, il m'a dit de suite, il a contacté le centre pénitentiaire de Perpignan en disant que c'est Taoufik qui allait bien et tout ça, donc la prison leur a dit non, tout va bien, il n'y a pas de souci. S'il y aurait eu un problème quelconque, on vous aurait averti, on ne voit pas pourquoi, on ne vous aurait pas averti. Voilà les dires de mon neveu, quoi. Hein.
Et ça, c'est le 2 novembre, donc ça fait déjà quasiment 2 semaines que Taoufik il a été débranché, donc en fait, ils savent très très bien.
Oui, tout à fait.
Donc ça... Ouais. Ça, c'est quand même une histoire qui est complètement dingue. Et là, après, c'est comme vous nous le disiez, une semaine après, le 9 novembre, qu'il y a les services d'état civil qui joignent l'ex-femme. C'est ça ?
C'est ça.
Donc, 23 jours après qu'il a été débranché. C'est une histoire, mais complètement hallucinante.
C'est surtout une histoire immonde. C'est immonde de traiter les gens de la sorte. Surtout quand on... Comme je le dis souvent à l'antenne, je suis un peu infiltrée chez les surveillants pénitentiaires et leur page Facebook. Et quand on lit les commentaires qu'ils mettent en dessous et qu'ils se... Il s'autoprogramme justicier de l'administration pénitentiaire limite en disant que c'est normal, c'est très grave. C'est très, très grave.
Vous savez, chère madame, vous savez, moi, je suis quelqu'un qui a toujours tendu la main à autrui. Hein. J'ai toujours aimé tendre la main aux autres. Hein. Je le fais encore. Et j'ai vu pas mal de cas. Hein. Mais un cas similaire à celui de mon neveu, franchement,
jamais. Je suis resté devant. Je suis dans l'envolée depuis 2013. Je n'ai jamais entendu une histoire pareille. Voilà. Il est inadmissible de laisser la famille dans le trouble comme il a été fait là.
Alors, le seul argument qu'ils ont trouvé, le centre pénitentiaire de Perpignan, c'est qu'ils disent à la famille qu'ils seraient morts suite à un étouffement dû à un morceau de viande qu'il aurait mangé.
Vous avez eu accès, vous, à l'autopsie ou, qui a été faite ou pas ?
Il n'y a toujours pas d'autopsie.
Mon beau-frère et ma soeur, bon, mes nièces et mes neveux, ils sont en train de faire tout le nécessaire pour essayer d'avoir une autopsie, hein, pour essayer d'approfondir la situation, pour voir exactement ce qui s'est réellement passé. Ben, l'autopsie tarde toujours à venir. Maintenant, ça va faire presque 2 mois qu'il est à la morgue. Actuellement, il est toujours à la morgue, mon neveu. Mais c'est complètement inadmissible d'accepter des choses pareilles. Donc, voilà, moi je vous dis franchement, j'ai vraiment confiance en la justice. Et je voudrais dire au procureur de la République de Pyrénées-Orientales, de Perpignan, s'il vous plaît, faites le nécessaire pour activer l'autopsie, pour voir exactement ce qui s'est réellement passé, pour savoir la vérité, quoi. Hein. Ne pas laisser la situation tarder, voilà, quoi.
Mais c'est tout le truc, en fait. Enfin, là, c'est particulièrement intolérable. Enfin, moi, enfin, au téléphone avec les parents, en fait, les parents et toute la famille a besoin de faire un enterrement pour faire son deuil et tout. Mais donc, le truc, c'est qu'ils savent très bien que le problème, c'est que pour obtenir une petite vérité sur ce qui s'est passé, parce que quand même dans tout ce que vous racontez, ça tout est difficilement, enfin c'est tout rend soupçonneux, quoi. Enfin voilà, faut dire ce qui est, et c'est gentil de le dire comme ça, c'est plus que suspect. Voilà, mais le truc, c'est que la justice, elle est aussi dans, malheureusement, son rôle, voilà, de protéger l'administration pénitentiaire, et qui retarde autant que ça l'autopsie. En fait, l'autopsie, ils auraient dû la lancer depuis le début. C'est complètement incroyable qu'elle ait pas été faite, quoi. Enfin, je veux dire, quelqu'un de 40 ans, parce qu'il y avait 40 ans, Toufik, qui décède de cette manière-là. Enfin, on fait une analyse, enfin, comme c'est le cas pour toutes les autres personnes normalement à l'extérieur. Quelqu'un de 40 ans qui décède, vu que ça peut pas être de mort naturelle, enfin, de manière classique, on vérifie. Là, je veux dire, c'est complètement hallucinant. Et en plus, il y a des pressions qui ne sont pas vraiment des pressions, parce que, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça des pressions, mais en tout cas, la morgue demande que le corps soit enlevé, mais sauf que ce n'est pas possible en l'état. Voilà. Et là, il y a maintenant plus de 2 semaines qu'une autopsie a été demandée par votre avocat.
Mais tout à fait. Mais vous savez, la morgue ne demande pas mieux que de retirer le corps de suite, parce que je vais vous dire, la morgue, tant qu'il est à l'hôpital de Perpignan, les parents, ils peuvent se tranquilliser parce que, si vous préférez, ils n'ont pas de charge lourde sur leurs épaules. Mais si jamais ils retirent le corps de là, ben ils sont foutus, parce qu'ils seront obligés de le mettre à la morgue ailleurs, et là, toutes les charges et tous les frais vont venir sur leur dos à eux, ils ne vont pas assumer la responsabilité d'une autre morgue. Donc, il serait judicieux de le laisser à la morgue de Perpignan, puisqu'il est décédé à l'hôpital de Perpignan, et tant que l'autopsie n'est pas passée, tant que la vérité ne s'est pas éclatée, eh ben le corps restera toujours à la morgue de Perpignan, à l'hôpital de Perpignan. Voilà, quoi.
Et la famille en a besoin pour faire son deuil, quoi. Enfin, il y a un moment, c'est...
Toute la famille, ils attendent que ça, que la situation se passe le plus rapidement possible pour que le défunt puisse se faire enterrer d'une manière digne de ce qu'il mérite.
Il y a une plainte qui a été déposée, bien, je suppose.
Ben, je ne saurais pas vous dire, parce que bon, je n'ai pas demandé s'ils avaient déposé une plainte ou pas, mais bon...
En tout cas, vous êtes proche d'un enfin, vous êtes avec un avocat qui a demandé cette autopsie. Tout ça, il n'y a pas encore une constitution de partie civile qui a été faite à ma connaissance, des derniers échanges que j'ai eus. Mais en tout cas, il y a l'autre chose aussi, c'est qu'il n'y a pas eu de dossier médical complet qui a été fourni à la famille. Et ça aussi, c'est une autre bataille dans laquelle vous êtes lancé, c'est de récupérer un dossier complet de ce qui s'est passé pour Taoufik, quoi.
Alors écoutez, là, vous parlez vraiment comme un livre. Je vous en remercie de me remémoriser ce problème-là. J'ai été contacté par ma nièce et elle m'a confirmé que ils avaient dit, parce qu'ils avaient un premier avocat, hein, un avocat que j'admire, hein, il faut dire les choses comme elles sont, c'est quelqu'un qui est compétent aussi. Mais bon, il leur a déconseillé de faire une autopsie. Donc, quand il leur a déconseillé de faire une autopsie, ils ont trouvé un petit peu ça bizarre. Donc, ils ont jugé bon de prendre un autre avocat.
Ils ont très bien jugé, parce que c'est la première chose. Et nous, on est habitués, malheureusement, à ces procédures. Et c'est la première chose qu'il faut demander. C'est une contre-autopsie. C'est si la famille de Adama Traoré n'avait pas demandé de contre-autopsie, aujourd'hui la vérité n'aurait pas éclaté. Donc c'est super important et il y a des éléments qui prouvent que l'histoire est trouble. C'est qu'on met pas 2 mois à faire une autopsie déjà. C'est énorme. C'est encore une fois irrespectueux pour les proches qui ont besoin d'exactement. Et de faire ce deuil, qui est déjà compliqué, parce que je ne pense pas qu'on fasse le deuil de son enfant, ou voilà, c'est compliqué, déjà. Le fait qu'il y ait tellement d'ombre, de zones d'ombre comme celle-ci, c'est que forcément, il faut demander une contre-autopsie. En tout cas, c'est le conseil que je pourrais donner. Et que nous,
écoutez, vous avez tout à fait raison, chère madame. Écoutez, moi... vous savez, quand j'ai été avec à la morgue, je vous dis franchement, je suis un petit peu sensible. J'aime pas trop voir.
Bien évidemment.
Quelqu'un de décédé, quoi. Mais bon, ses sœurs, ses frères, sa mère, son père, ils sont tous rentrés le voir. Et là où il y a suspicion, c'est que ma nièce et mon neveu, quand ils sont sortis, ils m'ont dit: tonton, mais on a l'impression que la tempe côté droite, elle est beaucoup plus enflée que celle de gauche. Donc, c'est là où ils sont restés un petit peu dans le brouillard complet, quoi, si vous préférez. Hein. Donc, j'en reviens donc au deuxième avocat, d'après les dires de ma nièce, quand il a demandé le dossier donc au procureur de la République pour qu'il puisse lancer une autopsie, soi-disant, c'est à prendre au conditionnel, bien sûr, c'est soi-disant que le procureur lui aurait dit: j'ai pas tous les éléments exacts pour pouvoir vous fournir tout le dossier. Alors là où j'ai trouvé un petit peu louche, c'est que si vraiment le procureur a annoncé ce que je viens de vous dire, comment il a pu juger qu'il se serait étouffé avec un morceau de viande puisqu'il n'a pas tous les éléments exacts qu'il faut. Donc c'est là où je veux dire que là,
sans autopsie, il y a cette conclusion. Sans autopsie, cette conclusion n'a pas à être donnée.
Voilà, exactement. Voilà. Donc, c'est sûr qu'il y a des tas de zones d'ombre qui laissent la famille un petit peu abasourdie, quoi.
Bah oui, c'est vraiment une situation horrible. Enfin, pour avoir eu au téléphone un certain nombre de personnes de la famille, c'est vraiment... C'est dur, et c'est toujours cette période qui est très très dure, parce que tu viens de prendre la plus grosse claque dans ta gueule possible, et en plus c'est le moment où en fait il faut lancer des démarches, il faut se battre pour qu'il y ait une vérité qui advienne, et en fait t'es tiraillé entre plein de trucs, quoi. Enfin, je me souviens de la maman qui a besoin d'enterrer son fils, enfin voilà, elle demande que ça, et juste en fait la justice lui empêche de faire son deuil correctement. Enfin, moi, ce qu'elle m'a dit, c'est il reviendra pas, mais juste j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé, et puis de l'enterrer, tout simplement. Là, ça fait plus de 2 mois. Stop, là faut arrêter.
Et je vous dis pas sa maman dans quel état elle est.
Ah bah oui,
petits enfants qui sont tous en bas âge. C'est tous des petits enfants en bas âge. Je crois que l'aînée de ses enfants, elle vient d'avoir 16 ans ou elle les a pas encore fait. Donc c'est pour vous dire, il en a 6. Donc non, vraiment il y a quelque chose. Vous savez, je vais vous dire une chose. Moi, ça fait 56 ou 54 ans que je suis dans le département des Pyrénées-Orientales, qui a toujours tendu la main à autrui, qui a toujours ramener certaines personnes à la raison, qui a toujours aidé les jeunes des quartiers. je vous le promets, ce qui est arrivé à mon neveu, ça m'a vraiment mis hors de moi. Et si vous me permettez, cher monsieur, dame, si vous me permettez, moi, je voudrais lancer un appel au ministre de la Justice. Je voudrais lui dire, monsieur le ministre, faites quelque chose pour ces prisonniers. Faites quelque chose pour les prisons françaises, parce qu'il se passe vraiment des trucs horribles. Et la preuve en est là. La preuve en est là. Monsieur le ministre, et je vous dis franchement, ma sœur, elle est dans un état épouvantable. Ses filles, ils sont aussi pareils, dans un état épouvantable. Essayez de faire quelque chose auprès du procureur de la République de Perpignan, de façon à ce qu'il puisse activer l'autopsie de Taoufik, de façon à ce que ses parents puissent l'enterrer d'une manière digne, si qu'ils méritent, et qu'ils puissent faire leur deuil d'une manière définitive.
Vous avez, voilà. Vous avez écrit au parquet
Non, pas du tout. Non,
il faut le faire. Il faut écrire. Après, je sais qu'on est dans les 40 jours de deuil et que c'est compliqué, mais je pense qu'il faut écrire, qu'il faut commencer à exiger cette
ça risque malheureusement. Enfin, moi, on en a discuté hier soir au téléphone. J'ai bien peur que la justice, elle soit dans ce rôle de protéger et de tout retarder. Voilà. Certes, par rapport à ce qu'on s'imagine de la justice, est-ce qu'elle doit faire normalement dans les beaux principes qu'elle se donne et tout. Je comprends ce que vous dites. Dans la pratique, dans ce qu'elle fait généralement, en fait, elle se retrouve souvent à protéger. Et donc, le ministre Super Dupont, là, c'est aussi le ministre des prisons. Et donc, c'est de la même manière Darmanin avec les policiers. Il va les défendre. Et voilà. Mais en effet, c'est lui qui devrait faire ça. Dans les grands principes, mais dans la pratique, il ne le fera jamais. Et c'est seulement.
Surtout, il est au courant de tout ça, en fait.
Il est au courant, et c'est seulement par un rapport de force de médiatique, militant, politique et autres, qu'il y a quelque chose qui va pouvoir bouger. Et on a la preuve, en fait, parce que, en fait, on parle très rarement des violences pénitentiaires et de ces meurtres pénitentiaires, mais c'est la même chose qu'avec les meurtres de la police. C'est seulement. Parce que des familles se battent, on peut penser à Amal Bentoussi et tout ça, qu'ils ont, au bout d'une dizaine d'années, réussi à obtenir quelque chose. Mais ça passe malheureusement que par un rapport de force. Voilà. Et donc, enfin, moi, quand on en a discuté, je vous ai dit, il n'y a pas de souci, dites-le. Voilà, moi, j'ai peur que ça soit vain, en fait. Enfin, voilà.
Je pense qu'on devrait exiger la restitution du corps et que c'est un droit et que le garder 2 mois, c'est inhumain. Et il faut absolument réagir. Voilà. En tout cas, c'est mon avis. Et si vous avez besoin d'aide,
Mais écoutez-moi, la salade, chère madame, je vous en remercie de fond du cœur de nous avoir contactés. Franchement, c'est tout en votre honneur et je vous félicite. Et continuez comme ça parce que ce que vous faites, c'est vraiment formidable. Hein. Moi, vous savez, la salade, moi, que je vais vous demander, parce que moi, je ne suis pas compétent dans la matière, je vous dis franchement. Moi, je voulais faire tous les plateaux de télé, vous voyez, parce que moi, je suis en train de défendre non seulement mon neveu, hein, qui est vraiment mon sang, Je le défendrai jusqu'au bout, mais je voudrais défendre tous les gens que malheureusement qui rencontrent énormément de problèmes dans les prisons françaises. Vous voyez, moi je suis quelqu'un vous savez, j'ai toujours été aux côtés des plus démunis. Vous savez, j'ai toujours été aux côtés des plus faibles, alors qu'il y en a certains qui ne sont pas du tout faibles. Mais malheureusement, c'est vrai que quand on se retrouve seul, ben, on est faible, même si on se croit fort. Quand on est seul, on n'a personne à nos côtés, eh ben, je vous le dis franchement, madame, monsieur, on est faible. Donc, j'ai essayé de contacter Cyril Hanouna pour essayer d'aller le voir parce qu'ils font des émissions superbes sur les prisonniers, sur les dérives policières et tout ça. Yes. Ah bon, moi, j'arrive pas parce que je suis pas compétent dans la matière pour les contacter. Si vous voulez m'aider dans ce domaine,
je pense que ces gens, ils servent aussi qu'à donner la soupe à ce genre de choses et que c'est pas. Enfin, en tout cas. Bon, après, on continuera peut-être cette discussion.
Ouais, peut-être qu'il peut.
Enfin, voilà, en dehors de l'antenne, mais je pense que c'est pas, en tout cas, c'est pas sûr que ça soit par cet espace-là que on obtiendra le plus rapidement l'autopsie et tout ça. Enfin, en tout cas, de notre expérience, nous, c'est jamais ça qu'on a vu. Après, je comprends ce que vous nous dites et tout, mais je pense qu'il y a d'autres trucs à faire avant. Et là, il y a une bataille judiciaire à lancer très fortement et voilà.
Ouais. Mais de toute façon, ce que madame a dit, moi je vais le dire à l'avocat, d'écrire carrément au parquet, hein, comme vous m'avez dit madame, et d'essayer de les faire bouger, quoi, hein, parce que c'est vrai que c'est complètement inadmissible d'accepter des choses pareilles. Hein.
Ouais, et le temps joue en leur faveur, du coup il faut pas oublier ça, en fait c'est un savoir qui est en face de vous, c'est pas la première fois que l'administration pénitentiaire, la justice, elle gère ce genre de choses. Et du coup, il faut vraiment leur mettre la pression dès le début, parce que le moment où on tilt que c'est trop tard, en fait, après, il n'y a plus de recours judiciaire possible, il n'y a plus moyen de savoir quoi que ce soit qui s'est passé, quoi.
Exactement. Et donc,
Bah, en tout cas, bah...
Bon, de toute façon, on reste en contact, tout ça. Enfin, voilà, on se tient au courant. Enfin, voilà.
Ouais, merci pour l'appel.
Mais merci. Est-ce qu'il y a un dernier petit truc que vous voulez dire?
Pour moi, de vous avoir eu au téléphone, franchement... en vous remerciant de fond du cœur, hein. Franchement, bravo, ce que vous faites.
Non, il y a pas de souci, on est là pour ça. Merci d'avoir pris le temps et l'énergie de nous appeler, parce qu'on sait que c'est dur. Et de toute façon, bah, on se tient au courant, on s'appelle ce week-end, et puis de toute façon, on se tient au jus. Passez une bonne soirée, plein de force à toute la famille, et puis à très bientôt.
Et je suis à votre disposition quand vous le voulez. Il n'y a pas de souci, vous me contactez.
Et pareillement, n'hésitez pas si vous avez besoin de notre antenne et elle est à vous.
Je monterai, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, mesdames.
Au revoir, merci beaucoup.
Au revoir.
Merci.
On va mettre un petit peu de musique.
Well, your cops thought you won't see me. Fucking pig, I'm the king of this start a riot shit. What? Revolutions forever, motherfuckers. 1, 3, 1, 2, say it. Yeah. I'm a necromaniac. Salute. Then set it like this. Grab the brick. Light your ass up with some Molotov moonshine. Let's take it back to 92.
I just wanna say, can we all get along?
ACAB. All cops are bastards. They could blast us. Then why is it wrong when we blast them? I gotta take my respect. You try to kill me, pig, I'll put a knee on your fucking neck. Is all this crazy shit happening organically, or was it set up manually by Illuminati gradually, annually? 2020 maniacally escalating, possibly inciting a race war, many debate it. Protect and serve, bullshit. Finally the cops getting served, some of what they deserve. Ain't nobody scared, leave you physically impaired, son. Cops shoot you cause they too pussy to shoot a fair one. Killing innocent civilians, so we'll keep billing and peeling caps at your melon. A bunch of rebellious felons yelling. Fuck, don't you. Be shocked if you see cops dropping quick. People are pissed, you better get that police reform popping quick. Don't. 1200 ain't shit, so angry motherfuckers are looting and taking shit, cause their check is ancient. Gone. Can't pay rent, COVID made it painful. Add injustice to it and your neck veins swell. Fuck as hell. Looters running faster than Jesse Owens from pigs like cheetahs and roaches with man sneakers. We're taking what you owe us. A window shopper. Smash it, take the clothes off the mannequin dash. It's sad when you hurt your business owners. Sorry. So fuck Bloomingdale's and all these department stores for charging so much for mediocre garbage. And fuck Department of Corrections. Load up the compartment inside your weapon, cause looters might break in your apartment tripping. Damn. I thought I made it in life, I guess not. Fuck it, looks like the apocalypse coming. Time to grab the Gatton bucket. The poor will kill the rich, kill that bougie bitch. Clockwork orange on our tits, gangs in New York this shit. Archie Bunker Trump's in the White House bunker shook, cause ain't no such thing as politicians that ain't crooks. ACAB. All cops are bastards, they could blast us. Then why's it wrong when we blast them? I gotta take my respect. Larry Dave, try to kill me, pig, I'll put a knee on your fucking neck. ACAB. Most cops are bastards, they harass us, so fuck it, I will harass them. Very few have respect. You try to kill me, cop, I'll put a fucking knee on your neck.
I don't even vote. vote, cause that shit ain't real, it's a waste of my time. I could be fucking a dime's throw, rather hustle for mine. The game's rigged, get your jugular vein jigged up. Office a pig, then we'll kick back and tall boy swig. Fuck Elon Musk and Mars, focus on racism and VR. AI cured that before you and Amber died. The revolution's being streamed on Instagram. You fat ass cunts will have the train run on you instant ram. Officers dragged through the streets, faggots on their beats catching the beats, steal their ratchet heat. Police crews are plowing into a crowd, why's this allowed? Why? Pissed and I'm proud, scream it out loud. Fuck your rubber bullets, we don't fit that, appear fast. Smash a cop in the face, boom, run through the tear gas. A nation on edge with curfews, I haven't had a curfew since I was a kid with a nerve ball and curse. Domestic terrorists, vandalism and division, pandemic, anarchism, antifa-ism, schism. That's what you get being deceitful and greedy. Depressed rolling through Lafayette Square, peeping, fuck the police and graffiti. ACAB, all cops are bastards, they could blast us, then why's it wrong when we blast them? I gotta take my respect for George. You try to kill me, pig, I'll put a knee on your fucking neck. ACAB, most cops are bastards, most, they harass us, so fuck it, I will harass them. Very few have respect, yup. You try to kill me, cop, I'll put a fucking knee on your neck. Arrest every officer on the planet, let them experience the cold granite of a confined cell.
God damn it!
Corona surges during the purge, cops perjuring themselves to merge with bad cops, the truth diverge. You can't push me back, I'll mush you, cop. You wish we stopped, you bitch ass, I'll rep like pop. Confiscate your Glock, we can't conversate, I think not. Past that point, now shit is too hot, sucks to God. Get wet up like Flipper, Molotov flinger. Everyone flipping out, flipping cars over, flip the finger. Reach the television, studio gates, hijack NBC. Go on live and teach the truth about rage. Watch hate, what disappointment, emptiness, hopelessness, and so much fear. Lockdowns, layoffs, COVID, incivility, racism, power abuse, now choose. A mob in front of the mayor's crib, like say anything obnoxious, blasting, get up, stand up from 1,000 boomboxes. America's political system is broken, swing your bullshit opinion at me, get your shit broken. Asphyxiating, cuffed innocent men, unreal. We finally put police under pressure, we made the meal. National Guard being called out to control an irrational squad of passionate hard rock, smashing, dancing on cop cars. Pigs overwhelmed, rioters at the helm and over 140 realms, and it's all being filmed. Pennsylvania Avenue's Transylvania, homes of political vampires. We wanna drain the main vein on you.
ACAB,
all cops are bastards, they could blast us, then why's it wrong when we blast them? I gotta take my respect. You try to kill me, pig, I'll put a knee on your fucking neck.
Look, America, this is not about black anymore, this is not about white, this is about justice for all humans.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM avec nous comme tous les vendredis soirs sur l'Envolée. Vous pouvez nous appeler au 01 40 05 06 10, nous écrire au 1 rue de la Solidarité 75 019 Paris, nous appeler sur le, toute la semaine au 07 52 40 22 48 ou nous suivre sur l'envolée.net, Facebook ou Instagram.
Voilà, donc là on vient d'écouter un morceau de Necro qui s'appelle ACAB. Donc une grosse dédicace à tous les keufs qu'on invite à démissionner. Et donc merci à Necro de nous ressortir un son un peu de qualité. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas été le cas. Donc c'est nouveau.
Et maintenant on va passer à la prison de Seyss. Alors d'abord on va lire un communiqué que l'Envolée a écrit et qui va être publié sur le site assez souvent sous peu. Et avec des témoignages de prisonniers qui dénoncent ce qui se passe à l'intérieur. Et après, nous aurons un appel de deux personnes qui représentent les familles de Seyss et qui vont nous parler de cette tôle dans toute sa splendeur.
Bah, qui sont déjà là, on peut peut-être déjà leur dire bonjour.
Bah, salut, salut.
Bonsoir.
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 Donc, bah, comme ça, c'est cool. Vous allez nous donner un avis sur le communiqué.
Ok.
Voilà. Donc, Arthur, s'il te plaît.
Gilles est mort au mitard à la maison d'arrêt de Seyss dans la nuit du 5 au 6 décembre. Il avait 20 ans. L'administration pénitentiaire prétend qu'il s'est pendu, mais les prisonniers sont formels. Gilles ne s'est pas suicidé. Ils sont très nombreux à témoigner. C'est toujours la même équipe qui est mise en cause. Toujours les mêmes prénoms de surveillants qui ressortent. Le pire, c'est que ça fait des années que ça dure. En 2018, déjà, après la mort de Jawad, les prisonniers avaient demandé dans un communiqué que les membres de cette équipe soient dispersés ou mutés hors du quartier disciplinaire. Mais rien n'a été fait. Rien n'a bougé. Jules, Jawad, Mehdi, la liste des morts suspectes au quartier disciplinaire de cette tôle ne cesse de s'allonger, sans que soit jamais entendue la parole des prisonniers qui ne cessent de dénoncer cet escadron de la mort. mais comme il le nomme. Pas un seul surveillant n'a été inquiété. À la mort de Jawad en 2018, il y a eu des refus de remontée, de promenade, où une banderole portant les mots « Bâton assassin » a été déployée dans la cour de la promenade, peu après la publication du communiqué dans lequel des prisonniers de Seyss criaient en détresse. La seule réponse de Belloubet, ministre des tribunaux et des prisons à l'époque, a été déclarée à la presse qu'elle condamnait ces allégations et se réservait le droit de porter plainte contre ceux qui le relayaient. Même pas peur. Pas question de passer sous silence le régime de terreur que fait peser une menace mortelle sur la tête des prisonniers de Seyss. Manifestement visé, l'envolé avait même encouragé la ministre à porter plainte. Un procès, c'est l'occasion en or de cuisiner à la barre les surveillants incriminés par tous les témoignages. En effet, tous les prisonniers qui décident de témoigner parlent invariablement de la même équipe, celle du mitard au quartier disciplinaire. Ce lieu clos, à l'abri de tous les regards, où règne la peur. Ils décrivent souvent les mêmes faits. Amenés au quartier disciplinaire, ils ont subi une prise qui leur fait perdre connaissance. Sans doute une technique de pliage mortel enseignée à l'école de police. Et aussi aux surveillants. Certains racontent qu'ils se sont ensuite réveillés nus, couverts de sang et d'hématomes. Et qu'il ne leur a pas été permis de voir un médecin, malgré leurs nombreuses demandes. Certains sont terrorisés au point de dire qu'ils ont une chance sur deux de sortir vivants du mitard. C'est dur à entendre, et encore plus à vivre. Marre de cette impunité, marre que la voix des enfermés soit toujours réduite au silence. Voici quelques extraits des innombrables témoignages de prisonniers de Seyss sur le mitard et ce qui s'y passe.
Ma femme connaît la femme de Jules. Il l'a appelée trois fois pour dire qu'il l'avait mise à nu et qu'ils l'ont défoncée. Au final, elle a essayé de rappeler, et puis plus de nouvelles. Ils l'ont démonté, mais il ne s'est pas pendu. Parce qu'avant la dinguerie, il était au téléphone avec sa femme. Il ne faut pas lâcher, il faut que sa famille porte plainte.
Je suis restée longtemps à Seyss. Ils ont failli me tuer. Ils ont tout fait pour me traîner aux isolés. Ils m'ont fait une prise de sommeil. Je me suis réveillée au quartier disciplinaire à poil, obligée de mettre le feu pour sortir.
J'étais à Seyss en 2009. Je suis allée au mitard. Ils m'ont tabassé. Ils m'ont mis à poil avec les menottes aux mains et aux pieds. J'avais des bleus partout. Même le médecin, obligatoire, ils me l'ont pas fait voir. Ils font ce qu'ils veulent. Les surveillants nous mettent à l'amende. Faut pas lâcher la famille de Jules. Il faut qu'ils payent tout ce qu'ils font.
J'ai été à Seyss. Ils ont tué Jawad. J'ai vu plus d'un collègue rentrer au cachot, mais j'en ai pas vu beaucoup ressortir. La loi du mitard et celle du bâtiment n'ont rien à voir. On sait tous ce qui se passe au bâtiment disciplinaire. Ils maquillent tout en suicide. Faut que la vérité sorte. Maintenant, trop de frangins sont morts. C'est pire que l'Omerta. Tous complices, tous du sang sur les mains. J'ai fait 3 ans au MH2, bâtiment 2 de la maison d'arrêt des hommes. Il n'y a pas de règles pour eux.
Je suis sorti de Seyss le 8 décembre. C'est une prison où si tu te lèves le matin, tu ne sais pas comment tu vas finir ta journée. Les surveillants sont très solidaires entre eux et camouflent beaucoup de choses. J'ai vu des mecs partir au mitard en mode avion et se faire éclater. J'étais oxy d'étage et tu vois beaucoup plus de choses que les détenus qui taffent pas.
Ils m'ont fait pareil à Seyss. Ils m'ont écrasé la tête. J'ai perdu connaissance. Fallait pas que je meure. Je pensais à mon fils quand il m'écrasait la tête à coups de Rangers sur le sol en béton. Pour tous les morts et tous les disparus, il faut le dénoncer.
Mon beau-frère aussi a été retrouvé pendu au mitard. On a porté plainte. Trop de trucs bizarres. On n'a même pas pu récupérer les affaires. Elles avaient disparu.
Moi aussi, j'ai été à Seyss. À l'époque, ils ont dit qu'un jeune s'était suicidé. Il avait les côtes cassées.
Une année à Seyss, après un refus de réintégration de cellules, je finis au mitard. Le deuxième soir, on entend un gadjo qui arrive en criant en rebeu de toutes ses forces. On entend la serrure se refermer, et tandis que les matons s'arrachent, on continue d'entendre crier cet homme, qui devait être sans papier, donc personne à qui rendre des comptes. Puis d'un seul coup, on entend l'ouverture de la cellule et un brouhaha, un enchaînement de cris et de coups, puis plus un mot, puis la fermeture de la cellule. Je m'en souviendrai toute ma vie. Le lendemain matin, on nous fait sortir du mitard, nous étions 2 ou 3 à ce moment-là, sans compter le blédard, et là, dans le couloir, un sac mortuaire rempli. On nous a fait sortir du mitard en avance, juste au moment où les gens arrivaient pour constater la mort de ce monsieur. Seyss, c'est la prison de France où il y a le plus de suicides maquillés.
Mon cousin aussi, à Seyss, il s'est soi-disant pendu au mitard, alors que les légistes ont révélé des bleus sur tout son corps. Il lui restait beaucoup à faire. Il avait des enfants à l'extérieur. Aucune raison pour lui de se pendre. Vraiment. Faudrait se rassembler pour faire quelque chose, chaque décès. Ou pousser un coup de gueule. Il faudrait vraiment aller plus loin dans les démarches. Courage aux familles pour tout ce qui se passe par là. Je sais que c'est dur.
Solidarité avec les prisons de la maison d'arrêt de Cesse. Solidarité avec les prisonniers de la maison d'arrêt de Cesse et les proches de Jules. On ne lâchera pas l'affaire. Voilà, ça c'est le communiqué que l'envolé a écrit là récemment. Et maintenant, on est avec je ne sais pas si on peut appeler ce collectif, cette association, comment on peut vous appeler ? Allô ?
Des familles en colère.
Des familles en colère, voilà. Je pense que c'est le mot exact, en vrai. C'est des familles en colère. Tu voulais nous... Enfin, t'es toute seule ou t'es en conférence ?
Non, là, je suis toute seule.
T'es toute seule ? D'accord.
Tout ça, c'est les témoignages des détenus à l'intérieur de la prison.
Exactement. C'est ce qui se passe à Cesse, et on peut s'apercevoir qu'il y a des témoignages qui sont de 2008, 2009, 2018, 2019, 2020...
Voilà.
Et que rien n'a changé.
Moi, je veux leur dire, il faut qu'ils entendent, s'ils m'écoutent, qu'on ne fait pas rien dehors. Il ne faut pas qu'ils aient peur. On ne va pas lâcher. On est des mamans, des familles, des sœurs, des frères, des cousins, des copines. Là, on est révoltés. Il y a eu Jawed. Avant Jawed, il y en a eu d'autres. Il y aura d'autres Jawed. Maintenant, c'est Jules. Jusqu'à quand ? Jusqu'à ce qu'on nous appelle pour nous dire le prochain, c'est le vôtre. On fait quoi ? Tout le monde est au courant, personne ne bouge.
Il faut...
On ne va pas lâcher. Non, on ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher.
Il faut bien spécifier et appuyer sur ça. C'est qu'à l'intérieur, les prisonniers sont... harcelés par ces surveillants qui leur mettent la pression, et qui leur disent que si ils ouvrent leur gueule, ils vont soit avoir des transferts disciplinaires, soit ils vont se retrouver, ils les menacent de les mettre au mitard, donc c'est indirectement on va te tuer en vrai. On se souvient d'un témoignage d'un jeune homme expliquer qu'il y avait un d'entre eux qui était blessé, je ne dirais pas où, parce que ça pourrait les aider à retrouver et cibler les gens, et qu'il lui disait que s'il ouvrait sa bouche et qu'il expliquait ce que Jawed avait subi dans ce lieu disciplinaire, il lui arriverait la même chose. C'est quand même très, très compliqué.
Ouais, puis là, on en parlait avec le proche de Perpignan, mais ça, c'est aussi une tôle où les keufs et les gendarmes, plus précisément, qui interviennent. La justice, en fait, elle travaille... Enfin, tous ces gens-là travaillent ensemble pour couvrir tout ce qui se passe, quoi. On en parle quand il y a des violences policières, de comment les procureurs peuvent permettre de gagner les heures, les journées qui permettent d'étouffer les affaires, d'empêcher que la vérité elle puisse sortir. Et c'est exactement la même chose qui se passe à Cesse. On en parle dans le dernier numéro, on a été revenu assez longuement avec Sylvia en début de rentrée là, vers septembre-octobre, sur comment ils avaient essayé de maquiller au maximum la mort de Jawed.
Ouais, non mais un des trucs, c'est ça, comme dans le dernier journal aussi, ce qu'on dit, c'est que c'est pas qu'à Cesse, c'est bon, on le sait bien. En fait, on parle dans le dernier journal de Saint-Martin-de-Ré. En fait, il y a plein d'endroits où il y a des équipes qui font exactement la même chose que cet escadron de la mort. Et comme il y a des témoignages qui le disent, en fait, ils ont tous du sang sur les mains. Ça fait tellement de temps que ça dure, c'est plus une question de qui le fait. Tout le monde à l'intérieur est au courant. Enfin, les choses se répètent à chaque fois. Et c'est pas juste une prison, c'est pas juste quelques matons. Là, on le voit bien, c'est vraiment, des faits qui se répètent exactement de la même façon. Depuis vraiment trop longtemps.
Moi, ce que je voudrais dire avant de reprendre l'appel, c'est que faut que ces surveillants arrêtent de penser qu'on est dans un film, que là, on est dans la vraie vie, que se faire justice soi-même, c'est pas tolérable, que ces prisonniers ont déjà été condamnés, que instaurer la peur et la terreur, ce n'est pas non plus tolérable. Et je voudrais surtout dire à ces prisonniers que vous n'êtes pas seuls, que maintenant, le fait que ça commence à intéresser l'opinion publique, parce qu'on va faire en sorte que ça le fasse, pourra vous aider à pouvoir parler librement et enfin vous libérer. Parce que c'est ce qu'il faut
C'est ce qu'il faut qu'il se passe. Il faut pouvoir vous libérer. Même si c'est que cérébralement et que c'est que psychologiquement, je pense que c'est un poids, ce moyen de terreur qu'ils instaurent et que il faut bouger, voilà. C'est important.
On avait écrit il y a quelques temps par rapport à Jawad. On avait mis que tous ceux qui sont passés par le quartier disciplinaire pourront témoigner des humiliations qu'ils y ont subies, des insultes racistes, des crachats à la figure, des ordres donnés comme si on y était des moins que des chiens. Là-bas, celui qui a le malheur de la ramener peut finir comme Jawad, pendu. Et en fait, on constate que ça n'a pas bougé, quoi.
On a re-en ligne. Vous nous entendez ?
Oui.
Donc donc en fait vous êtes des proches de famille qui ont décidé de se réunir.
Oui.
Et qui ont décidé de dénoncer ce qui se passe dans ce lieu clos, morbide et lugubre.
Voilà, où règne l'omerta entre surveillants, où ils ont l'impression que c'est un cirque, c'est des dompteurs qui dompent des animaux, comme ils les appellent, des animaux ou des fauves. Ils ont l'impression que les êtres humains qui sont dedans leur appartiennent. Ils jouent avec, ils font ce qu'ils veulent avec. Il ne faut pas oublier que ces personnes-là ont des familles dehors. Là, on a une rage. Personne ne va nous arrêter. Quitte à contacter les médias, à envoyer un courrier à la directrice, à envoyer un courrier au préfet de Seyss, parce qu'il faudrait qu'il ouvre un peu les yeux sur la prison de Seyss, qui fait partie de sa commune. Il est quand même le préfet. Que ce soit la gendarmerie de Seyss qui s'occupe des problèmes, qui s'occupe à l'intérieur, c'est trop facile. Voilà. Ce qui se passe dedans, c'est pas normal. Tout leur appel au secours, moi déjà je les ai entendus, il est hors de question que tout le monde sache tout ça et qu'on fasse rien. C'est impossible. Des témoignages, on va en faire. On va faire des pétitions, on va envoyer des courriers. Là, je m'adresse à Monsieur le ministre Dupond-Moretti qui a dit dans son livre: je suis du côté de ceux qui portent les menottes. Alors maintenant, je veux qu'il agisse. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont les menottes. Je veux bien que des personnes aient fait des bêtises dans leur vie, des conneries, soient condamnées et purgent leur peine. Ça, c'est pas un problème. On n'est pas contre. On suit le rythme. Nous, on vit en fonction du détenu. Mais ce qui se passe à l'intérieur, c'est pas normal. Tout ça, c'est fini. C'est fini. Les détenus qui m'entendent là, c'est fini. C'est fini. Faut vous révolter. Pourquoi avoir peur? Avoir peur de quoi? Ils se servent de ça. Ils savent que vous avez peur. Et tant qu'ils sauront que vous avez peur, ils se serviront du quartier disciplinaire pour vous tenir. Comme un âne avec une carotte. On vous fait marcher comme ça. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il y a des gens instruits en prison. Il y a des gens qui... c'est pas tous des meurtriers. C'est pas tous des... Il y a des personnes en prison. Il y en a qui veulent s'en sortir. On leur refuse tout. Tout. Ils sont déjà privés de tout. Privés de quoi encore? On va jusqu'où, là? Moi, je m'arrêterai pas. Ils me mettront à genoux, mais alors sûrement pas à faire. Ça, c'est impossible, impossible. Là, j'ai une rage. Personne ne va m'arrêter. On est beaucoup dans ce cas-là. On voit nos enfants, nos familles, nos pères, nos fils, nos maris. Voilà, on se retrouve comme ça, dehors, à l'intérieur. On n'a même pas un endroit où se retrouver, nous, des familles. On entend des choses à l'extérieur quand on en ressort. Moi, je suis décapitée quand je sors de dedans. J'ai plus la personne, je suis contente. C'est quoi? On s'en va, nous, on repart dans nos vies normales, mais eux, H24, ils sont là, on les laisse là, on repart, on les laisse là.
Attends, tu nous entends? Parce que là, on te capte...
ça capte très mal.
Très mal.
Donc, là, ça va. Là, c'est bon.
Ouais, là, peut-être, ça va. Ouais, ça marche mieux, là. Ouais.
Bon, mais je bougerai pas de là.
Désolé.
Et donc...
Il y a une autre personne aussi qui veut témoigner de ce qui se passe à l'intérieur, de ce qu'on fait aux détenus, leur couper l'électricité quand ça fait plaisir à certains surveillants, leur couper l'eau quand ils sont sous la douche, ça aussi c'est rigolo. Ils ont pas
ça, c'est des moyens de torture et ça personne pourra me dire le contraire. Personne ne pourra me dire que ce que vous dites est faux, parce que ça arrive constamment dans les prisons actuellement. C'est la petite touche à la mode dans l'administration pénitentiaire. On éteint l'eau et l'électricité.
Ils font équipe, voilà.
C'est ça.
À quelle heure, ils sont posés tous tranquilles devant la télé.
Pendant un match de foot, par exemple.
Ouais, voilà. Ben,
c'est ça.
Tant qu'à faire. leur fouiller la cellule, leur quand ils sont en promenade ou au parloir, ou essayer de chercher la petite bête, essayer de. Il faudrait déjà que eux soient propres avant de regarder si les autres. Non, ce qui se passe à l'intérieur, c'est fini. C'est moi, je laisse plus faire. C'est
là, il faut.
Parce qu'on se sentait impuissant, parce qu'on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire.
Le truc, c'est que maintenant, les gens commencent à prendre conscience que ça peut arriver à n'importe lequel d'entre eux à l'intérieur. Et ça fait très peur. Ça fait vraiment très peur.
Et puis, le prochain, ils sont arrivés jusqu'à.
On se croirait dans cette prison, on se croirait dans le couloir de la mort, en vrai. On se croirait dans un film qui s'appelle La Ligne Verte.
Non, c'est pareil que la série Netflix. Après le prochain épisode où il y a un drame, où, voilà, c'est une série.
C'est ça, c'est une série.
Les détenus, ce sont des acteurs, voilà, ils subissent, ils ne doivent rien dire parce que quartier disciplinaire, voilà. Tu te tais ou non. Ils ont des droits, ils ont des droits. Il faut que eux aussi fassent valoir leurs droits. Il y a l'OIP qui envoie un journal à la bibliothèque de la prison, il y a tous leurs droits. Voilà.
Le problème, c'est de réussir à les faire respecter. Et là, pour l'instant, ils n'ont pas le droit de se faire taper. Et pour autant, ils le font parce que tout se passe dans une certaine forme d'omerta. Et ils font toujours ça, comme par hasard, au Mitard, qui est l'endroit où...
Tout le week-end, entre le samedi et le dimanche. Voilà. C'est... Après un parloir, on se dit, c'est un copier-coller de Jawad.
De Jawad, ouais. Voilà. Il faut rappeler qu'il y a un jeune homme qui est mort dans la nuit du 5 au 6 décembre. Que Jules avait 20 ans.
Il était suicidaire, oui.
Que Jules avait 20 ans, que c'était un enfant plein de vie, parce que j'ai 40 ans, pour moi c'était un enfant, mais voilà, c'était un homme plein de vie. Faut savoir que là où c'est d'autant plus compliqué, c'est que son frère est incarcéré dans la même prison et qu'il vit ça seul à l'intérieur. Enfin, il a sa famille, mais c'est quand même compliqué pour lui ce qu'il vit là. Voilà. Donc,
ça veut dire qu'il croise.
Tout le monde pense.
Qui croise les assassins.
On se portera partie civile si vous portez plainte contre l'État, contre la prison. Nous, on est là. On va se faire un comité. On se porte partie civile et on porte plainte avec eux. Avec la famille de Jawad, avec la famille de Jules. Il n'y a pas de souci. On suit maintenant. C'est bon, il faut bouger là. Stop, hein. On va accepter ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ils ont droit sur nos enfants, ou sur nos maris, ou sur nos sœurs, ou sur nos frères. C'est pareil dans la prison de femmes.
On a entendu parler aussi de la prison des femmes.
Les détenus, en général, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous voyez le colis de Noël qu'ils attendent depuis des mois.
Non,
c'est une honte. C'est une honte.
C'est vraiment insupportable. Je ne sais pas si l'autre personne voulait rajouter quelque chose. Tout à l'heure, j'ai.
Oui, je suis là.
Ouais.
Bonsoir.
Bonsoir à tous. Ouais, moi, je suis super révoltée par rapport à tout ce qui se passe. Je pense que toutes les personnes qui viennent voir les détenus, on est autant emprisonnés qu'eux, quoi. D'accord. De toute façon, la maman qui vient de parler, c'est ma bouche, c'est moi et elle, on veut monter une association et on va la monter. Même si on se casse la figure, eh bien, on va continuer parce qu'ils ont des droits, d'accord? Ils ont des droits. Mais eux, ils n'ont aucun droit. Ils sont impuissants. C'est-à-dire pour un... Moi, j'appelle pas ça le quartier disciplinaire, comme ils disent. J'appelle plus ça le mitard. J'appelle ça le couloir de la mort. Il y a votre collègue tout à l'heure qui l'a dit, ça m'a mis les frissons. Parce qu'elle a dit ce que moi je pense depuis encore l'histoire de Jawad et l'histoire de Jules. C'est le couloir de la mort. Pour rien, et je sais ce que je dis, je ne parle pas pour parler, on va au mitard, au couloir de la mort, pardon, pour un rien, d'accord? Ça veut dire qu'eux, ils abusent de leur pouvoir et de leur tenue ou tout ce que vous voulez pour forcer le détenu à minimal, hein. Manque de respect, c'est même pas un manque de respect qu'ils font, entre parenthèses, c'est qu'ils parlent, ils ont le droit de parler même. Et en fait, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ah oui, allez, au mitard. Mais c'est quoi ça?
Non, c'est devenu un moyen de pression, en fait.
Pardon?
C'est devenu un moyen de pression, c'est là où c'est très grave, c'est qu'ils savent ce qu'ils ont fait au mitard, dans ce mitard, ils savent qu'ils ont clairement assassiné des gars, et que Et que quand tu vas leur répondre, parce que des fois, tu es quand même à bout de nerfs dans ton 9 mètres carrés, donc forcément, tu peux être à fleur de peau. Et ces surveillants, ils vont te dire, tu vas finir au quartier disciplinaire. Ça veut dire clairement, on va te tabasser, tu vas mourir, poteau. Ça veut dire ça, en fait.
Exact. Mais oui,
et c'est là où c'est dramatique.
Et je rajoute un truc. Au mitard, au quartier disciplinaire, il n'y a pas de caméra. D'accord ? Donc là, j'écoutais les témoignages, là, tout à l'heure. Mm-hmm. Même si, quand le jeune, il est... Il est de 40 ans, ça fait 2 mois. Et on demande autopsie, ça fait 2 semaines. Il n'y a rien. Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Pourquoi il n'y a pas de caméra? Mais ils ne sont pas cons. Ça, pourquoi? La directrice, pour moi, ce sont tous des corrompus.
Ouais, c'est sûr que tout le monde est au courant. Oui.
On est d'accord. J'envoie des mails de partout, j'ai tapé partout, j'ai appelé, j'ai fait tout. J'attends. Et sincèrement, on ne va pas s'arrêter là. Comme je dis, je me casse la gueule, mais comme on dit, à plat ventre, on ne me mettra pas. Je me casse la figure, je me relèverai. Parce qu'eux, ils sont détenus. Ils subissent. Alors, attendez, en plus, le pire, c'est que je pense que ma collègue, elle a oublié, mon amie, elle a oublié de dire que ils ont 23, ils ont une heure de promenade. D'accord ? Des fois, ils ouvrent la porte. D'accord ? Promenade. Le jeune, il n'a même pas le temps de mettre sa chaussure qu'on lui referme la porte.
Je l'ai vécu à Fleury-Mérogis. Hein. Je confirme que c'est vrai ce que vous dites.
Ah oui, je vous promets que moi, je ne parle pas. Je ne suis pas là pour que je dise des phrases qui ne sont pas vraies. Ce que je dis, c'est que j'entends et je l'entends.
Ils font tout pour les rendre fous. Ils font tout pour les rendre fous. Ils savent comment les
aider. On parle pas là. Moi, je ne me suis pas permis de parler là dans la radio. D'accord ? Et j'ai fait tourner votre radio. Hein. Je l'ai fait tourner. Et de tournage, on va dire, le téléphone arabe. Hein. Dieu seul sait. Je ne m'arrêterai pas là. Et je vous dis franchement, j'ai une force pas possible parce que les larmes, j'ai envie de tellement des fois de pleurer, je n'arrive pas parce que je me dis, les larmes que je vais couler, je vais m'en servir pour ma force, pour me battre. Parce que même si le détenu avec qui je vais boire, qui sera sorti, je continuerai pour les autres. Parce que le colis de Noël, ils attendent une entrecôte, mettre dans la viande, ils attendent. Et là, on nous donne un colis qui ne s'appelle pas un colis, en fait.
Non, c'est un colis diététique. Fruits secs.
Hein, voilà, fruits secs. Ah. Chorizo. Excusez-moi, il y a des musulmans. Il y a des musulmans. Tous ne peuvent pas manger de la viande.
Ouais, c'est le seul jour de l'année où en fait on peut faire à manger pour les gens à l'intérieur.
Bah, nous, en tant que prisonniers ou prisonnières, c'est voilà. Ce qu'on attend toute l'année en fait. Attendez, notre morceau de viande.
Un seul mois où on peut amener 5 kilos et nous, et personne ne pourra me contredire, on est tellement excités de leur amener de la viande que là, ils nous l'interdisent en fait. C'est ça le problème. Et moi, ça, sincèrement, c'est pas normal.
Donc, non, mais là, c'est juste
pas, un abri familial, il est fermé, d'accord ? L'abri familial, il est fermé, d'accord ? Il y a des mamies et des papis, des mamans, des vieux qui viennent et qui restent dans le froid, pas de chaise, d'accord ? Ensuite, ils font quoi ? Il y en a qui viennent de loin, je parle pas de Toulouse, de loin. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils arrivent, ils sont même pas au courant qu'il faut amener un sac fermé. Parce qu'ils viennent d'arriver, c'est des arrivants. On leur refuse le linge. Ils repartent avec leur sac de linge. Il faut que nous, l'association qu'on peut monter, parce qu'il y a des détenus qui n'ont pas d'argent, qui ne reçoivent rien. Il n'y a aucune personne qui vient les voir. Il y a des familles qui leur tournent le dos. Je veux que moi et ma collègue, qu'on monte cette association et on le fera, parce que j'ai la Ligue des droits de l'homme, j'ai pas mal de contacts, et sincèrement, j'en ai parlé, et sincèrement, faire un don pour les détenus qui n'ont pas d'argent. J'en parle, je l'énerve. Les détenus qui n'ont pas les moyens de faire des cantines. Les détenus qui n'ont pas les moyens d'avoir des vêtements. Un don pour ces détenus. 5 euros par-ci, 3 euros par-là, 4 euros par-là, il n'y a pas de problème. Là, on va signer des pétitions. On va aller même le jour que je n'ai pas parlé, on ira là-bas. On va signer des pétitions. Aujourd'hui, on en a rediscuté. Faire une manifestation dans cette prison-là. Dans cette prison. Et on continuera jusqu'à ce que ça fasse quelque chose. Un impact de malade. Parce que sincèrement, ils tuent nos frères, nos sœurs, nos pères, nos enfants. Eux, ils veulent faire la loi.
Ils font leur loi. Ce que tu dis, c'est important, en fait.
Là, j'ai tellement à dire que les vêtements, c'est pareil. Ils vous disent pas de kaki, pas de bleu, pas de ci. Mais là, on amène du linge, pantalon rouge, la coque rouge. Ils vont le mettre à la fouille. On écrit des lettres, le détenu écrit des lettres. On réclame, tout en étant poli. Parce qu'ils ne sont pas polis, hein. Rien à faire. Non, mais faut arrêter, là. Faut arrêter. Même des animaux, on les traite pas comme ça, quoi. Pourquoi ? Parce qu'ils sont détenus ? Parce qu'ils sont en prison ? Donc on en fait ce qu'on veut ? Non, pas du tout.
Un papa s'est vu refuser le parloir parce qu'il avait un pantalon kaki.
Alors son fils a eu un parloir fantôme à cause de... Voilà.
Par contre, ça c'est des malades, ça, ils n'ont pas le droit.
C'est pas un détenu.
C'est des fous.
On n'a pas les mêmes lois, on s'habille comme on veut.
Ah non, mais c'est des fous.
Une maman a failli se faire refuser le parloir parce qu'elle passait avec sa petite fille de 8 ans avec une jupe militaire.
Ah mais c'est donc, pas...
On lui a dit que si elle revenait la prochaine fois avec cette tenue, le parloir était refusé. Mais je pense pas que le détenu, le papa ou le frère ou le cousin, va mettre la jupe de sa petite sœur ou de la personne qui...
Ah non, mais c'est pas légal, hein, ça, de toute façon. Ils ont pas décidé...
Je sais pas, peut-être qu'il
veut
va
bien...
faire un CRI avec et puis il va sortir de la prison avec la petite jupe. Je comprends pas. Et, même nous, même les familles sont maltraitées. Même les familles sont mal renseignées. Si vous voyez à l'accueil comment ils parlent... On n'est pas des chiens. On n'est pas des chiens. On n'est pas des chiens. Voilà.
Je vous conseille
de l'accueil, pas l'accueil famille, abri famille. Je vous parle de l'accueil quand vous sonnez avant de rentrer pour le parloir. Aux gardiens, surveillants qui sont dedans, à l'intérieur. Bien au chaud, devant les caméras, à surveiller si on n'a pas des choses quand on passe au portique. Voilà, je vous parle de cet endroit-là. Ils vous parlent comme si vous étiez des merdes. Moi, je me dis, s'ils se comportent avec nous, nous, on est libres. Comment ils font avec eux? Ils leur font quoi? Ils leur font quoi? Tu sais, j'imagine le pire. Mais je sais très bien que c'est le pire. Mais les détenus qui m'entendent là, tous les détenus qui m'entendent dans toutes les prisons, c'est pas que c'est dans toutes les prisons, toutes les villes, dans toutes les villes, on va faire bouger toutes les associations de toutes les villes, on va faire des manifestations, il faut que vous nous aidez. Avec vos témoignages, il faut nous aider. Plus il y aura de témoignages, plus vous vous laissez pas faire, vous vous révoltez et vous allez voir. La loi qu'ils ont instaurée dedans, c'est fini ça. L'omerta, c'est fini. C'est fini. Même s'il y a des surveillants qui m'entendent, hein, c'est fini. Les familles, elles se lèvent maintenant. Stop.
Bah nous, en tout cas, on sera vraiment à votre côté là-dedans et il ne faut pas hésiter de nous utiliser à fond pour ça.
On vous tient au courant.
On est là pour ça. Et pour relayer toute cette parole et cette rage qui fait...
On ne laisse pas. J'ai même envoyé un courrier, un mail au contrôleur des prisons. J'ai fait des signalements partout. Et il y a une chose aussi que je veux faire passer à l'antenne, c'est les personnes qui n'ont pas de famille, les personnes qui ont des difficultés par rapport au pécule, par rapport au colis de Noël, ou qui n'ont pas les moyens, ou il y a des personnes qui peuvent faire des dons à la Croix-Rouge. La Croix-Rouge prend jusqu'à 50 euros et offre un colis à un détenu qui n'a pas de famille, ou voilà, faire des dons. Aidez-les, il faut les aider. Ils ont besoin de nous.
Ils ont pas mal de thunes, la Croix-Rouge. Ils pourront les faire. Enfin, voilà, mais par contre, non, ce qu'il faut vraiment dire, c'est de les réclamer. À la Croix-Rouge et tout ça et voilà, parce qu'en fait ils font pas vraiment le listing correctement, voilà, mais faut les réclamer.
Il faut réveiller tout le monde maintenant.
Donc, à l'intérieur, il y a aussi pour les personnes qui sont éloignées des proches et tout ça, vous pouvez demander à la Croix-Rouge dans toutes les tôles de France. Alors je sais pas précisément comment ça se fait, mais voilà, et ils ont des pépettes pour pouvoir payer ce genre de trucs.
Voilà. Alors, je ne vois pas pourquoi il y a des gens qui participeraient à donner 50 euros alors que c'est déjà une association humanitaire. Ça aussi, il faut...
Donc...
Faire des dons, eux, sans qu'il y ait argent derrière. Mais bon.
En tout cas, merci beaucoup pour votre détermination. Vous avez vraiment tout notre soutien. Voilà, l'antenne, elle est à vous aussi. Et puis...
Un bon carnet bien rempli avec...
Exactement.
Ça se sait, tout le monde sait ce qui se passe. On fait tourner partout. Merci les réseaux sociaux, merci les radios, merci à vous.
Merci à vous.
Merci à toutes les personnes qui veulent nous rejoindre. Vous pouvez donner nos coordonnées, il n'y a pas de souci. Il faut que ça bouge dans toutes les villes. Le monsieur qui a témoigné, le tonton, qui est très en colère contre voilà ce qui s'est passé pour Taoufik, fait à son âme, comme on dit. C'est tout fait avec un petit morceau de viande. Voilà, c'est un peu trop ridicule, mais bon, en France, ça passe. Mais ça passera plus, des trucs comme ça. S'il veut nous appeler, nous contacter, parce que j'ai vu que lui aussi voulait bouger, mais comme vous lui avez conseillé, franchement, aller chez Hanouna pour... Faut d'abord attaquer tout ce qui est justice.
Exactement.
Préfet, député, maire, je m'en fous, tout le monde. Voilà, c'est tout. C'est trop facile de mettre... de parquer des personnes dans un endroit. C'est fini, on n'est pas en guerre, là. Si, exactement. Quelque part, on est en guerre. Mais bon, c'est fini, cette...
On va dire qu'on est en guerre, poliment, mais en force, quoi. Et on va rien lâcher, en fait. C'est ça, le truc.
On n'est pas à Saoudite, je ne sais pas où, là. Non, on n'est pas en Allemagne, on n'est pas dans les camps...
Exactement, on n'est pas dans le couloir de la mort, quoi.
Exactement. Mais du coup, gardez votre force, gardez votre détermination.
la résistance
et beaucoup beaucoup de force à vous pour la suite, pour ce combat qui va être long et éreintant, mais c'est comme ça qu'on fait avancer les choses, donc encore un grand merci.
Pas grave, l'énergie on l'a, c'est notre force on l'a, voilà, c'est les détenus, on est là.
Merci pour votre témoignage en tout cas.
On reste en contact en tout cas. Et tout, vous avez
le nom. Par rapport à votre existence de radio, sincèrement et franchement, merci pour nous avoir laissé témoigner.
Bah, t'inquiète, c'est normal. On va devoir boucler là, mais on se tient en courant et puis on continue, on se tient en jus. Plein de force à vous et plein de force aussi à tous les prisonniers de Seis, à tous les proches de Jules, voilà, parce que c'est aussi son surnom. Voilà, et force à vous et puis on se tient très vite au courant.
Ils ne seront pas morts pour rien, c'est tout. Voilà, c'est la dernière chose que je vais dire. Nous, notre association, on a une phrase qu'on a sortie comme ça, c'est les dés tenus en main. Mais les dés pour jouer. Voilà, on a essayé de faire un jeu de mots.
Super.
Voilà. Ouais. Voilà. Et ça, on a le droit de détenus, oui. Voilà. Les détenus en main, c'est pas eux qui vont les tenir.
Et parole pour tous les détenus, ne vous inquiétez pas, on est là. Vous restez tranquille et nous, on va s'occuper du reste. Et j'espère que ça va fonctionner. Et même si ça ne fonctionne pas, on continuera.
Merci à vous. De gros bisous.
Merci. À très vite. À plus. Salut, salut.
Et à bientôt. À bientôt.
Bonne soirée à toutes. Ciao, ciao. On voulait donner deux, trois petites nouvelles de l'infâme rapidement.
Ouais, en fait, en gros, bon, on a raconté, un infâme, il s'est fait récemment tabasser par les surveillants, en fait, à Vendin, là où il prend très cher, en fait, depuis qu'il a été transféré là-bas il y a 3 mois. Et en gros, suite à ça, bien sûr, bah, comme d'hab, la paix a dit que c'est lui qui avait été violent, mais bon, il a un peu déjà dit dans la lettre, en fait, ils ont dit que lui, il avait résisté à la fouille et que c'est pour ça qu'ils avaient eu tout à fait le droit en légitime défense de le tabasser et de faire ce qu'ils lui ont fait. Suite à ça, du coup, il a pris 54 jours de mitard, genre 2 fois 20 jours plus 1 fois 14 jours, donc 3 petites peines différentes. Sauf que je crois qu'il y a un médecin qui a dit qu'il pouvait pas, son état n'était pas compatible avec le mitard. Du coup, ils ont recréé le mitard dans sa cellule au QI. Donc en fait, il est dans sa cellule au QI, il a accès à rien, ils ont vidé complètement la cellule. Il a juste le droit au téléphone et encore aux heures habituelles du mitard, donc en fait des heures vachement restreintes. Donc il fait hyper froid dans sa cellule, il raconte qu'en gros, par exemple, ils lui ont enlevé le radio réveil qu'il avait, ils lui ont rajouté la radio, mais en gros, il a plus rien qui donne l'heure. Enfin voilà, ils lui refoutent la torture classique que tu reçois au mitard. Ils lui recréent dans sa cellule de QI, qui est déjà quand même un certain délire. Et donc, ils lui font payer un truc qu'ils lui ont fait. Enfin voilà, ils lui font payer le fait d'avoir fait sortir en fait l'histoire, on le sait très bien.
Ouais, et de parler avec l'envolé et de faire sortir les infos. 54 jours, c'est long. C'est long, ça lui fait aussi sucrer son colis de Noël, même si on expliquait que c'était quand même bien la merde cette année pour les colis de Noël. Et voilà, du coup, on voulait lui envoyer beaucoup de force. On parlait de sa mort tout à l'heure et de comment cette tôle a été faite pour briser des prisonniers qui sont révoltés. Vendin, où est le copain, bah, c'est exactement la même chose. C'est beaucoup de matons pour moins de prisonniers au QI et c'est... Ouais, c'est des méthodes de torture, enfin des trucs qui sont pensés pour briser les gens et pour qu'ils puissent plus avoir envie de se révolter, quoi.
Ouais, du coup, ouais, comme on dit à chaque fois, si vous voulez lui écrire à l'infâme, voilà, pour discuter avec lui ou juste pour témoigner votre soutien par rapport à tout ce qu'il vit, contactez-nous, on transmettra ses coordonnées. Voilà, c'est important que la paix, enfin déjà pour lui d'être soutenu et que la paix sache qu'il est pas
ouais,
tout seul.
Si vous pouvez lui écrire et lui donner du soutien, ça lui fera beaucoup beaucoup de bien et le connaissant, il aimerait bien.
Ouais, et puis voilà, et c'est la même chose pour Kémy, dont on a lu la lettre au début. On a oublié de le préciser tout à l'heure, mais voilà.
Ouais, faut pas hésiter du coup donc à nous contacter. Beaucoup de force aux copains si t'arrives à nous écouter avec la radio qui t'ont mis. On pense fort à Watt et voilà, on continuera de donner des nouvelles la semaine prochaine et dans les prochaines semaines, quoi.
Rediffusion mercredi matin. Désolé de vous lâcher aussi vite parce qu'il y a une autre émission derrière, mais force, courage et détermination, il n'y a pas d'arrangement. À la semaine prochaine, salut à tous et à tous.
Plein de force aux prisonniers de Seis.
Eerst en vooral een dikke shout-out aan mijn allochtonen. Wat ik niet kan geloven, niet zo rechts hier aan de macht kan komen. En fuck de flikken, ik verdik het van mijn vaste tonen. Aan een vak Mongolen met natte dromen van macht vertonen. Politiekers mogen geen zak geloven. Als de meeste rappers is wat ze zeggen een pak gelogen. Yeah, vraag me af wanneer ze erachter komen. Op
qu'un dac indique de ma qu'un val de acte.
Le micro, mon arme, la feuille, mon bouclier. J'écris sans arrêt, pas de grand arrêt. Sur la 447, t'es pas prêt de l'oublier. Sorti de mon templier, le temps sur le sablier. Me rappelle que la belle vie dont on rêve finit aux oubliettes. Les petits nous regardent, gros, on doit finir médaillé. Ils m'ont proposé l'ascenseur, je veux pas tirer mon propre escalier. Entre les questions et l'oppression, les gamins ont grandi. Mais les gens qui nous braquent sont les mêmes qui nous traitent de bandits.
Dans la NAS, la manif est cadenassée, la police est caillassée, ma femme presque tabassée, la masse est tarassée, n'a pas assez de cash, passager en première classe vers les tracas et les matraques. Les factures sont des supercutes, nique un patron de Luminus, de Proximus, les politiques leurs superputes. Ça devient chaud de gratter des Marlboro, aucune entraide, on veut tous le salaire de Stéphane Moreau.
Pendant que la justice fait par tous et par l'IGPN, la pire des espèces s'organise pour briser tes rêves. L'avenir est précaire et si nécessaire, tes gosses vendront des grammes de cipette quand la ville est déserte. J'y enclavé, on n'a pas fini d'en paver. Tu mourras dans un hold d'hosto avant d'avoir dit ave. La finance est gavée, liberté entravée. Un gamme pareil s'est taré dans une ville où y'a tant de pavés.
I don't write rhymes, I write poetry. If my brothers had, they have what you have, they run the industry. There's no other way to put it, let me translate the equation. How will you buy the win when they tell you ain't Caucasian? I don't ever wanna be a part of the sphere of Europe. Sounds better than syrup on them pancakes on a Sunday morning. Man, you think that what you eat is okay. Fast fashion, fake people in some stockings.
Les forces de l'ordre tabassent à tout va. Là-bas, la milice tue des milliers de civils au Chili. Si les droits de l'homme sont bafoués, si ils le sont aussi, flammes, spelling, NVA. Ou quand les fâches sont de sortie, plus de honte à dire qu'un bamboula sans le caca quand t'es blond. Miss Belgique, je ne me cacherai pas fier de mes racines. Afrique, comment cautionner qui paye Zemmour avec de l'argent public? Derrière moi, il fait froid devant le soleil brille. De couleur peut apporter la mort sans sommation aux États-Unis.
1884, conférentie van Berlijn. We zijn nu in 2020 op dezelfde fucking lijn. Voor mijn fascio's en racisten die niet weten wie we zijn. In de klas ging de geschiedenis over Grieken en UN. Laat ze niks over de Congo, moesten kiezen voor Latijn. Het schip al lang gezonken, want er was geen kapitein. Ons systeem is niet kapot, nee, er is er geen mamijn. De helft is hier verzuurd en hun pist stinkt naar azijn.
Rebelle depuis tout petit comme Barracuda dans Rocky. Fait la guerre à tous ces Ndoki. Je ne m'avouerai pas vaincu, je ne finirai pas junkie. Y'en a marre de tous ces gens qui jactent sur le dos des gentils. L'État ne fait que nous mentir. On sait qui sont les vrais bandits, ceux qu'ont éliminé Gandhi. Dans la rue, tu sais, j'ai grandi. J'avais le peur à comme hobby. J'écoutais Tupac et Biggie. Je ne vois plus que des faux Oji. Manipulé par des zombies. Pour les vrais, le mal je brandis. Avant, c'était Baggy Boogie. Aujourd'hui, Versace et Gucci. Tout est foutu, que des faux culs. Chacun de nous a son vécu. Tu n'avanceras pas sans recul. Dans mes projets, je suis focus. Fuck Obama, W et Trump. Faites pas trop les thugs. Fermez vos gueules.
Laisse-moi crier mes conneries, faut que je puisse en faire part. J'ai pas fini de râler, pas